bon vendredi matin. De retour avec Sylvain, comment ça va?
Bon matin, Jeff, ça va bien?
Ça va très bien, aussi bien que toi qui pars en vacances en fin de semaine.
Ben, je suis en vacances présentement, Jeff. Je tiens juste à te souligner par solidarité avec toi, par amour du baseball, je me présente au bâton. Mais donc, je suis en vacances officiellement.
OK, fait que les gens qui nous écoutent doivent savoir que à BQ, Sylvain travaille les journées de vacances.
C'est ça, exactement. Ça.
Sylvain, cette semaine, en fait, je recule un peu. Tu n'étais pas là mercredi, on a eu un super show avec Maxime Chevrier. Les gens ont apprécié, j'en ai entendu parler un peu. Il y a des gens qui sont capables d'aller chercher un intérêt. Là. Puis lui, c'était merveilleux. On aurait pu continuer une demi-heure facilement sans poser de questions, puis ça aurait été intéressant. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais je t'encourage à le faire, puis j'encourage les gens à aller voir ça, parce que c'est super intéressant. Ce matin, on continue un peu dans notre lancée de parler comment améliorer sa qualité de jeu, comment s'améliorer au baseball. Puis tu voulais nous parler de l'inside baseball.
Oui, écoute, c'est quelque chose que j'entends à chaque année, à chaque été. J'entends ça au niveau des sports études. J'entends ça avec des équipes durant l'été, que ce soit du 2A, du A, du B. Et c'est le fait comment les jeunes ne comprennent pas la game de baseball. C'est d'où l'expression « inside baseball ». La compréhension de jeu est vraiment pas bien saisie. Et ça soit au niveau 3A, au niveau 2A, j'entends ces commentaires-là. Même JF Arsenault, Stéphane Dupont, qui s'occupe de la formation des arbitres, me disent la même chose, JF. Les arbitres qui sont les meilleurs, c'est ceux qui comprennent bien le jeu. Puis ceux qui sont en retard sur un jeu ou qui sont surpris que la balle se dirige dans une direction, arrivent en retard. Donc, arrivent en retard, moins bons angles pour visualiser qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, sont victimes de le fait de pas avoir assez d'inside baseball. Mais qu'est-ce qui me graffigne un peu là-dedans, c'est que on entend tout le temps cette phrase-là sortir, mais on n'applique pas vraiment de vraies solutions pour pallier au problème. C'est bien beau de dire, Jeff, tu comprends rien dans tel morceau, mais si je te l'explique pas, si je trouve pas des façons d'améliorer cet aspect-là, je vais répéter la même phrase année après année, puis ah, les gars sont pas bons, ils comprennent rien. C'est relativement facile à conclure ça. Le défi est beaucoup plus de dire bon, comment je m'y prends pour changer la situation.
Oui, puis sur tout l'inside baseball, le pourcentage là, d'acquisition de talent dans ce niveau-là, j'ai l'impression qu'une grande partie, c'est quand même de l'instinct. Il y a une partie qui ne s'apprend pas nécessairement, une partie qui s'apprend, mais tu sais, quelqu'un qui court bien les buts, là, ça ne veut pas dire que c'est le plus rapide.
Dans le sport, on appelle ça la prise d'information.
Exact.
Donc, c'est un morceau très important dans tous les sports, en particulier les sports collectifs. Tu sais, la façon qu'un Wayne Gretzky à l'époque au hockey, c'est pas nécessairement lui qui dominait dans toutes les skills de jeu, mais sa façon de voir le jeu, de se démarquer, etc., c'était fascinant. Lionel Messi au soccer était un peu, pour mes chums de soccer, c'était un peu le dieu du football là-dessus aussi, parce que c'est pas nécessairement celui qui possède le plus d'attributs, mais sa façon de se démarquer, de voir, de passer, d'avoir la perception du jeu. Donc, c'est sûr que ça, c'est des atouts incroyables. Il y a rien qui remplace le talent, parce que pour arriver à ces niveaux-là, il faut être du talent. Mais la façon de comprendre le jeu, de percevoir des choses, comme tu dis, l'instinct, ça serait l'anticipation. Avec une lecture d'un jeu, je suis capable d'anticiper que la balle va se retrouver peut-être à tel endroit. Puis, je te donne l'exemple d'un lancer au coin extérieur à un frappeur droitier. Mais surtout que la balle, elle s'en va au coin extérieur, bien, il y a des chances que le deuxième but peut-être commence à penser que la balle irait dans sa direction, c'est frappé. Donc, rien que ça, ça permet la fraction de seconde qui va faire en sorte que tu vas arriver à temps sur un jeu.
Exact. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer ça?
Ah, très bonne question. Et c'est là que ça se développe. Un, il faut absolument faire ce qu'on appelle du scrimmage. Ça veut dire, j'ai pas l'appellation française qui me vient l'idée, sauf exécuter la compréhension de jeu. Donc, dans nos équipes de 2A, de A, de B, on 12 joueurs, on met 3 coureurs, 4 coureurs, le coach installe au marbre, prend la balle, frappe la balle dans le champ ou n'importe où dans le jeu et on exécute le jeu comme il devrait se faire. Donc, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle des situations de jeu. Il y a des coureurs sur les buts. Il faut que ça rassemble aux vraies situations de jeu. Donc, si le coach se flippe la balle et frappe la balle dans le champ, puis le coureur est déjà en course, ben, c'est pas nécessairement la vraie vie, tu sais. Donc, on fait les jeux, puis un coup que la balle se promène, etc., on fait quelques situations et après ça, on amène tout le monde au deuxième but pour faire ce qu'on appelle un debriefing, de dire, OK, comment qu'on a joué ça? C'est la bonne chose. On aurait-tu dû pas envoyer la balle à tel endroit, etc. Et je te dirais, Jeff, que même pour les entraîneurs au troisième but, c'est un gros plus de participer au scrimmage. Parce que trop souvent, ben, la plupart du temps, les entraîneurs pratiquent comme coach au troisième but, pratiquent la circulation de leurs joueurs dans une partie. C'est les seuls qui pratiquent live. Ils sont vraiment dans le match, puis c'est le seul temps qu'ils vont pratiquer. Donc, des fois, puis c'est la décision d'envoyer un joueur au marbre qui se fait couper par 10 pieds ou de le ralentir quand il avait amplement le temps de rentrer au marbre. Tout le monde le voit, là. Donc, comme coach aussi, tu dois être meilleur à être capable de faire ça.
Oh oui, parce qu'un de tes joueurs peut être très rapide en ligne droite, mais tu ne l'as jamais vu courir, contourner le deuxième but pour aller, tu sais, du premier au marbre, exemple. Donc, tu l'envoies au marbre, mais il est vraiment rapide, mais il n'est pas si bon pour contourner les buts, finalement. Si tu t'en rends compte pendant le match, puis c'est là qu'il se fait couper par 10 pieds.
Oui, puis ça peut t'amener des idées de pratique par la suite, de dire il faut l'améliorer en course des buts. Ou quelquefois, c'est sa réaction. Il a pris des poches assez, puis au moment que la balle est rentrée dans la zone de contact au bâton, il n'y avait plus aucun momentum, donc il part de zéro. Il a arrêté son élan, si tu veux. Donc là, en partant de zéro, il arrive sur les buts, puis il n'y a plus de vitesse, il n'y a plus de momentum du tout. Donc ça, c'est des choses à tenir compte. D'ailleurs, Jeff, je te dirais qu'une des plus gros défauts qu'on peut avoir là en coaching, c'est vraiment de beaucoup trop parler sur les buts. C'est incroyable comment nos coachs gaspillent de l'énergie à parler sur les buts. Et il rend pas, on favorise pas du tout l'autonomie et l'apprentissage. Je te réexplique sur le scrimmage. Par exemple, je frappe une balle au champ centre. Bon, le champ centre doit renvoyer la balle au deuxième but, au troisième but, peut-être au marbre. Mais si, quand on fait cet exercice-là, tout le monde alentour lui crie « Troisième but, troisième but, troisième but! » Il devient une machine. En quoi qu'il va comprendre le jeu? Donc, il faut que tout le monde se taise quand on fait un scrimmage, puis qu'on y va avec la logique de la balle, comment elle est frappée, les coureurs, qu'est-ce qu'on perçoit, etc., pour qu'il y ait une amélioration, pour qu'il y ait un échange. Mais si tout le monde crie comme des robots et que ça ne tient pas, un bel exemple est Jeff, les receveurs. Je suis assommé de voir ça chaque été. La balle est frappée dans le sur, dans le champ. On s'entend-tu pour dire que le joueur défensif le plus loin de la balle, c'est qui?
Le receveur.
Le receveur. Donc, il commence à crier comme un débile. Oh, mon, 3-3-3. Il crie un paquet d'affaires que personne n'écoute. Tout le monde est en panique. Tout le monde est parti chercher la balle. C'est... Ferme ta gueule. Tais-toi. Attends que la balle revienne. Là, tu vas avoir de l'information fraîche, puis tu vas être capable de voir qu'est-ce qui se passe, puis où est-ce que le jeu s'en va, etc. Même comme receveur, GS, tu vas même être capable du coin-là de regarder l'entraîneur au 3, puis il est en train d'arrêter son coureur, ouais. Il est en train de l'envoyer. Va prendre de l'information. Arrête de crier comme un débile de un 3-3-3, un 2. T'es absolument, t'as pas présentement les... assez d'informations pour amener une bonne réponse.
Oui, parce qu'en plus, là-dedans, tu as peut-être le coach au 3 qui crie, tu as les joueurs sur le banc de ton équipe qui peuvent crier des choses, le receveur, le joueur, la réco au deuxième but qui va aider le vulture de centre. T'sais, normalement, ça va être lui qui a le premier contact, là, la réco au deuxième but, selon si champ centre droit, champ centre gauche. Mais c'est ça, ça fait beaucoup de monde qui crie sur un terrain, fait que l'information du receveur arrive pas. Là.
Ben non, exactement. Puis tu sais, ça m'assomme aussi de dire qu'à un moment donné, tu vois, t'entends le receveur qui va dire au joueur de deuxième but qui récupère une balle frappée dans le champ, évidemment, qui va dire à droite, à gauche, à droite. Comment ça que le deuxième but, il n'est pas capable de se retrouver dans l'espace-temps un peu? Parce qu'il était habitué à écouter en pas fin, à écouter simplement le receveur qui donne des ordres et lui, il n'est aucunement dans la compréhension de dire OK, si la balle est frappée près de la ligne, dans le fond de la clôture, ben moi, au deuxième but, il faut que je me retrouve pas loin de la ligne pour avoir une ligne droite vers le receveur. J'ai-tu besoin vraiment que quelqu'un me dicte quoi faire? L'autre chose, Jeff, qui est affreux, c'est la course sur les buts pour nos entraîneurs. Tu sais, quand on a un jeune kid de baseball, aussitôt qu'il va frapper la balle, l'enfant, il est supposé de courir vers le premier but, mais il faut y apprendre, évidemment. Mais on lui dit de courir vers le premier but. Mais lui, il gèle. Pourquoi? Parce qu'il regarde la balle. Donc, il regarde la balle, puis on lui dit « Non, regarde pas la balle, cours au premier but. » Puis des fois, les jeunes enfants, c'est super drôle, ils vont même manquer le but parce qu'ils ont regardé la balle puis l'action qui se passait. Fait qu'on est des années à les conditionner de ne pas regarder la balle. Ça va? Donc, ils finissent dans le coin de 12-13 ans à plus regarder la balle puis aller sur les buts. Mais par la suite, on les apprend à plus jamais regarder la balle. Et fie-toi au coach, fie-toi au coach. C'est de la merde. Puis le jeu typique, Jeff, là, puis j'aimerais ça avoir un schéma pour bien le montrer, le jeu typique qu'on voit toujours, là, c'est le coureur au premier but. La balle est frappée vers le champ centre. Donc, le coureur, il s'en va au deuxième but. Le coureur, il est à combien de pieds du champ centre? 50 pieds? 60 pieds du champ centre? Ouais, le coach au troisième but, il est à combien de pieds du champ centre?
Beaucoup plus loin.
À 80, 200, 210. C'est un kid de 12 ans qui a une acuité visuelle de 20 sur 20. On a un coach au troisième but qui est à 120 pieds de l'action, qui a des lunettes épaisses de même. Puis c'est lui qui va prendre la décision d'amener le coureur au 3 ou pas. C'est complètement ridicule. C'est le coureur doit prendre charge lui-même. Il sait qu'il y a le momentum pour arriver sur les buts. Il a son beat de coureur de dire OK, puis il y a surtout, il y a la balle juste devant lui.
Mais c'est donc, pour c'est ça que je parlais. C'est pour ça que je parlais d'instinct tantôt, parce qu'il faut comprendre le jeu, mais des fois, tu sais, il y a plusieurs scénarios là, qui peuvent arriver, mais justement, first and third, premier au 3, ou même juste du marbre au 2, de prendre le deuxième but. Là, des fois, tu vois, premièrement, là, comme joueur, tu as peut-être affronté le champ centre quelques fois, ou le champ gauche ou le champ droit, tu sais qu'il n'y a pas un bon bras, tu le vois qu'il s'en vient nonchalamment vers la balle. Normalement, tu n'y vas pas au deuxième but sur cette balle-là. Sauf que ton instinct dit « Hey, moi, je suis rapide, là, puis je le vois qu'il est nonchalant le champ, puis je sais qu'il n'y a pas un bon bras, j'y vais. Ben, » J'ai une chance.
C'est là d'avoir de la prise d'information. Parce que aussitôt que tu as frappé la balle du côté gauche, si on prend un exemple dans le champ gauche près de la ligne, puis tu dis j'ai-tu une chance de me rendre jusqu'au 2, ben aussitôt que je contourne le premier but, c'est pas au coach au premier but de me dire va-t'en au 2, va-t'en au 2. Non, c'est à moi de prendre la décision. Les seuls temps que les coachs vont parler, JF, dans des situations comme ça, c'est vraiment la balle que le coureur peut pas voir. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que le coureur au premier but qui s'en va vers le deuxième, puis là, on a la balle qui est dans la droite sur la ligne. Puis je te dirais, dans le pro, là, avec les stades plein de monde, là, ils n'entendent pas le coach au troisième but jamais, Jeff. Fait qu'ils regardent la balle la part du temps, là. Mais c'est l'habitude de prendre l'information, de dire, OK, la balle, il faut que je sache où qu'elle est. Il faut que je sache où ce qu'elle va. Tu sais, un coureur au deuxième but, Jeff, là, dès qu'on parle de 3A, là, un coureur au deuxième but, avant que le lancer se fasse, il doit se revirer de bord puis regarder les voltigeurs. Ils sont où?
Absolument.
Donc, dès que la balle est frappée, il doit savoir, bon, ça risque d'être un jeu serré au marbre ou non, ça sera pas un jeu serré au marbre parce que je sais le voltigeur, il est où. Donc, j'ai vu la balle à passer par-dessus le joueur le premier but. Je suis en sécurité puis j'ai aucun problème à faire ça. Donc, je te dirais, les coachs au troisième but, là, ça parle bien trop. Mon exemple, là, de la balle frappée au champ centre puis le coureur qui arrive au deuxième but, là. Ben, si le coach, il commence à parler, stop, 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 viens-t'en, vite. Il faut que tu fermes ta boîte comme coach. Puis on veut trop en dire, on veut trop. C'est tais-toi, concentre-toi, le coureur s'en vient. Toi, comme coach, prends l'information où comment la balle revient, puis voir si tu vas être capable de l'envoyer au marbre, etc. Donc, il y a beaucoup trop de paroles qui s'envolent dans les airs, puis il n'y a pas assez de compréhension du jeu. Donc, je répète, dans scrimmage, meilleure situation, c'est la balle est frappée quelque part, il n'y a pas un son qui se passe. Pour que les joueurs comprennent ou lancer, puis ne sont pas robotisés parce qu'on leur crie 3-3-3 ou 2-2-2, puis ils lancent la balle aux deux, puis tout le monde est content, mais il n'y a personne qui a appris, il n'y a personne qui est devenu meilleur. On a juste eu un robot qui s'est fait dire quoi faire, dans le fond. Là.
Ouais. Okay. Donc, si moi, comme coureur, je veux m'améliorer du deuxième but au marbre ou comme voltigeur pour une certaine prise de décision, qu'est-ce que je fais? Quelle information, exemple, je suis coureur au deuxième but, là, puis la balle est frappée, mais quelle information je dois prendre avant? Que la balle soit frappée.
Où les voltigeurs sont placés. Je suis un coureur rapide. Puis, un élément qu'on faisait, un petit truc qui était bien le fun que je faisais avec mes équipes juniors, nous, on donnait toujours. Premièrement, c'est jamais les coachs qui donnaient le nombre de retraits. Okay. C'était aux joueurs de donner aux coachs le nombre de retraits. Donc, il fallait que notre joueur arrive au premier but, puis il disait Jeff, il t'attire ton attention comme coach, puis il dit il n'y a pas de retrait. Donc, tout de suite, on se responsabilise en nombre de retraits parce que les coachs, à force de dire, il y a un retrait dur, ils t'écoutent plus, les joueurs. Là. C'est ouais. Ça rentre par là, puis ça sort, ils t'écoutent plus. Puis après ça, on établissait un code de couleur. Ça veut dire que quand c'était rouge, évidemment, c'était comme, il fallait être défensif sur les buts. Donc, on perdait 4-0, on est en fin de match, il faut y aller un but par un but, il ne faut pas prendre de chance, il nous reste plus assez de retrait, etc. Donc, pas trop agressif, qu'on ne tourne pas un but agressif, c'est il n'y a pas de retrait, on est rouge. Et des fois, on avait la couleur vert, qu'on se disait entre nous autres, puis c'est vert. Vert, ça veut dire, ben là, regarde, je vais être agressif. Là. Ça veut dire qu'il y a un gars au deuxième but, puis un coup sûr, on l'envoie au marbre, mon gars. Ah, mais la défense, il le sait. Oui, c'est ça. Il sait qu'il le retire. On s'en va au marbre.
C'est ça.
C'est pas plus compliqué que ça, on s'en va là. Donc, là, à ce moment-là, il y avait des codes de couleurs pour responsabiliser les joueurs là-dessus, puis que ce soit eux autres qui prennent les décisions, que ce soit eux autres qui prennent l'information, etc. T'sais. Donc, je te dirais qu'il y a un gros problème dans le base running canadien en général, à l'effet que les joueurs ne regardent pas assez la balle. On leur a trop dit de pas regarder la balle, la balle, puis ils courent simplement en surveillant l'épouvantail au troisième but qui fait des signes, au lieu de prendre l'information pour aller avec la balle.
À l'inverse, en défensive, qu'est-ce qu'on analyse quand on est en défensive pour améliorer l'inside baseball?
Ben là, je vais te résumer une rencontre que j'ai eue, j'espère qu'on a cette tête, une rencontre que j'ai eue il y a plusieurs années qui a complètement changé ma philosophie là-dessus. Chaque année, avant la pandémie, Sport Canada organisait ce qu'on appelle le Sports Leadership, qui était une rencontre qui avait souvent lieu à Ottawa, où que plein de coachs de tout plein de sports différents, aller chercher de l'information. Puis il y avait des ateliers, genre typique là, de clinique, où tu as 4 choix d'ateliers de 9 à 10 heures le matin, puis tu regardes les sujets, puis tu vas vers les sujets qui t'intéressent. Et moi, il y en avait un là-dedans, c'était le debriefing, puis la compréhension de qu'est-ce qui est fait, tatata. Puis celui qui présentait ça, c'était un chef de l'armée d'aviation. Là, on est quand même dans un congrès de sport. Là. Fait que c'est comme, mais ça a capté mon intérêt. Je suis allé voir ça. Puis écoute, lui, il m'a chaviré complètement. Premièrement, il s'occupait des vols en avion, tu sais, qui font comme un V.
Ouais.
Au niveau des reconnaissances.
Des spectacles, là. Ouais.
Ben, spectacle, puis.
Ouais, ouais, mais reconnaissance.
Préparé pour la guerre, ah, okay. Puis, etc. Puis il disait qu'évidemment, dans le ciel, il disait, on peut pas se permettre d'erreur, là. C'est pas, on peut pas, tu sais, nous autres, on lance pas la balle à la bonne place, puis, OK, les gars, on recommence, y a rien, là. Lui, il peut pas recommencer. Fait que, il dit, des fois, malheureusement, puis il dit, j'avais tous des gars bright, là. C'est des gars, des pilotes d'avion. Il dit, c'est tous des gars bright. Puis il dit, j'ai été assommé comment que, quand on simulait un accident, genre que celui à droite, le deuxième à droite, on l'enlevait de là comme si c'était fait atteindre. Donc, il fallait restructurer. Il dit, mes gars étaient mêlés comme un jeu de cartes. C'est qu'on faisait des essais, puis il dit, j'étais assommé de voir comment qu'ils comprenaient pas le déplacement que je voulais quand il y en a un qui sortait. Donc, ils étaient confinés dans leur rôle, très bons dans leur rôle. Mais aussitôt tu leur faisais sortir de ce rôle-là, il dit, c'était l'enfer, j'étais pas capable de... Puis je faisais des debriefings avec eux, puis c'était pas clair tout ça. Puis à un moment donné, il dit, j'ai eu un coup de génie, il dit, en jouant au basket. Là, je suis comme, hein, basket? Il dit, ouais, il dit, à un moment donné, il dit, je m'astinais avec mon meilleur chum. Il me dit, pourquoi tu m'as pas fait une passe, une remise en touche? Il dit, pourquoi tu m'as pas fait une passe, j'étais libre? Il dit, ben non, t'étais pas libre. Ben oui, j'étais libre. Ah non, il dit, j'essayais de te passer le ballon, t'étais pas libre. Et j'ai compris ce qu'il me disait au moment que j'ai pris sa place sur la touche. Puis là, je suis venu pour faire une passe. Il m'a dit la même chose. Puis moi, j'ai dit la même chose qu'on venait de vivre. Donc, j'ai compris que tant que je n'étais pas dans ses bottines, il n'y avait rien que je pouvais comprendre comme du monde. Donc, il dit, j'ai refait complètement mon debriefing, ma façon de compréhension avec mes avions. Il dit, j'ai obligé à l'entraînement, à tout le monde, à faire toutes les positions pour qu'ils comprennent ce que l'autre aviateur avait comme feeling. Puis il dit, ça a pris, écoute, 2 semaines, là, il dit, à se refaire. Puis il dit, on peut pas être trop proche pour les raisons que vous savez. Tu sais, mais il dit, après 2 semaines, là, il dit, aussitôt quand je n'enlevais un de l'histoire, là, fait que notre V était retiré d'un, puis il fallait refaire le. Il dit, c'était incroyable comment tout le monde était fluide, puis tout le monde comprenait tout. Ça, là, Jeff, ça m'a complètement chamboulé. Et je suis revenu avec le minding dans le 3, midget 3 à l'époque. Qu'on appelait les catégories inférieures. Je n'ai parlé souvent avec Mike Griffin qui a coaché Moustique puis oui. Quand on fait du scrimmage, là, n'importe qui, à n'importe quelle position, varier ça, frapper la balle, puis ouais, mais là, j'ai jamais joué là. Parfait, t'es supposé de comprendre quand même. Puis cette compréhension-là de tout le jeu, ça change complètement parce que là, tu comprends et t'es plus en mode de mémoriser. Parce que le gros problème, quand tu confines un joueur juste à une position, il comprend pas sa position, il la mémorise.
Ouais.
Et c'est complètement différent. Puis j'ai l'exemple que je donne souvent, tu sais, Costco, si tu sais pas comment, tu sais, Costco, j'écris ça, C-O-T-S, non, C-O, si tu comprends que ça vient de cost, le coût en anglais, puis corporation, le fusion des deux mots, ta compréhension du mot fait en sorte que tu vas toujours l'écrire comme il faut par la suite. Donc, c'est là que la différence est énorme entre comprendre l'action et mémoriser l'action. Et c'est pour ça que si on fait du Scrum Age, c'est pas mis les noms dans un chapeau, JF, puis Jean-François Charles, OK, troisième but, un tel, deuxième but, puis ouais, mais c'est pas ma position. On s'en fout, c'est justement ça, on veut que tu comprennes la game. Et ça, là, au début, c'est comme drôle, ça part dans toutes les directions, mais après ça, quand t'amènes le debriefing, tu ramènes tout vers le deuxième but, puis tu gères de l'action qui vient de se passer, c'est enrichissant et vraiment fascinant. Puis là, j'ai eu ça avec des kids de 10 à 11 ans aussi, là, de dire comment que les joueurs argumentent, puis comment qu'ils disent « Ben non, tu peux pas aller là. » Il dit « La balle, elle se rendra jamais, c'est à ceux qui n'étaient pas pour être là. » Tu sais, je te donne un exemple, une balle, un coureur au deuxième but, Jeff. Bang, la balle est frappée par-dessus le joueur le premier but. Donc, elle s'en va sur le bord de la ligne, là.
Ouais.
Ça sent le double pour le frappeur. Le frappeur coureur là, qui vient de frapper la balle, il a des chances d'aller au deuxième but.
Ouais.
Ben, le coureur qui est du 2, lui, il va rentrer au map bien facilement.
Mm-hmm.
Mais nos lanceurs s'en vont tout en arrière du receveur. Parce qu'on leur a dit, quand qu'il y a un coup sûr et qu'il y a un coureur au deuxième but, tu t'en vas en arrière du receveur. Mais par contre, dès que la balle est partie puis le premier but a sauté dans les airs puis il a manqué la balle, c'est très clair que le joueur du deuxième but aura plus aucun challenge, on ne serait pas capable de l'avoir au marbre. Donc, le lanceur serait beaucoup plus habile à aller faire un tour vers l'arrière de l'arrêt court pour prévoir un lancer du champ droit vers le deuxième but. C'est ce genre de compréhension-là qu'il faut qu'il arrive. Mais si notre lanceur, je donne l'exemple du lanceur, mais n'importe qui, ils ont été brainwashed à dire « Non, 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 quand il y a un coup sûr, toi, va-t'en là. Premier but, toi, tu t'en vas dans le cercle qui est là. » Ça avancera jamais. Puis on va rester dans le même état d'esprit de dire « Ah, les gars, comprennent pas la game, comprennent pas la game. »
Est-ce que tu te souviens d'un certain Derek Jeter?
Mm-hmm.
Le retrait qu'il avait fait au marbre sur Jason GMB, je pense, pas Jeremy. Là, mais...
Écoute, tu peux pas avoir une plus belle image de compréhension de jeu. Lui, il a vu les coureurs aller, il a vu qu'est-ce qui se passait. Puis par la suite, ben, il est arrivé puis il a dit « OK, la balle, elle se rendra pas, ça part de trop loin, t'es complètement dans le fond. » Il s'est amené à un endroit que dans aucun livre de baseball, il y a un arrêt qui est à ce place-là. Puis il a flippé, il est arrivé près de la ligne du premier but, fait qu'il l'a fait long, puis après la balle, il a flippé de côté, il a retiré. Écoute, c'est un des gros jeux défensifs de l'histoire l'histoire du baseball. Tout
absolument,
court,
puis c'est pour ça aussi que Derek Jeter, c'est pas le meilleur arrêt court de l'histoire, mais c'est probablement celui qui a le meilleur instinct, c'est celui qui a la meilleure compréhension de jeu pour un joueur d'arrêt court.
Quand on parle d'un gars efficace là, au possible, ça en était un. Il avait une très bonne lecture, puis il avait une compréhension exactement du jeu, puis savoir quoi faire, puis tu sais, ça va que c'est la prise d'information. Ça va aller que même au niveau professionnel, il y a tellement de matchs, tu joues tellement GF que je répète encore, là, les gars pros nous disent qu'ils jouent 20 matchs, 25 matchs, où ils ont pas mal à quelque part. Ouais. Ils ont mal au pouce, ils ont mal à une fesse, une brûlure, une fesse qui ne guérit pas, mal à un orteil, c'est fait jamais au bâton, il a mal au pouce, puis ils traînent ça pendant. Ils sont jamais en santé. Fait que dans le pro, là, même un gars comme Jeter, un Areco, ben il faut qu'il sache que quand c'est Ortiz qui frappe la balle à lui, ben il n'y a pas besoin de lancer une bine au premier but. Là. Puis un autre coureur, il va falloir vraiment qu'il lance de toutes ses forces au premier but parce que lui, il court vite. Fait que même ça, là, la compréhension de l'adversaire fait en sorte que tu vas te ménager quand c'est le temps de te ménager un peu, puis tu vas te forcer un peu plus quand c'est le temps de lancer avec plus de vigueur. Et ça va permettre de sauver des blessures puis sauver ton bras sur une longue saison. Donc, on va même jusqu'à là au niveau de la compréhension du jeu puis savoir quand est-ce que c'est le temps de faire ça puis quand est-ce que c'est le temps de pas faire ça.
À part, comme on peut améliorer ça en pratiquant, tu parlais du côté robotique un peu, là, que si tout le monde crie, on apprend sa position tout simplement, puis on devient un robot. Ben, si on fait juste pratiquer ces gestes-là, même si c'est silencieux, à un moment donné, on pratique tout le temps ça, puis quand arrive une autre situation, on est débalancé un peu. Ça se peut que la balle est frappée dans le champ droit puis que tu lances au deuxième but parce que tu es un coureur, sauf que il arrive quelque chose puis hey, qu'est-ce qu'il fait là? Il s'en va au deuxième but. T'sais. Fait que là, est-ce qu'il y a des façons autres pour améliorer ça? Puis je m'explique, est-ce que pour toi, parce que là, je l'ai dans les commentaires, regarder des matchs de baseball, que ce soit en direct, dans des terrains ou à la télé, jouer à des jeux vidéo. Parce
ouais,
qu'ils ont amené,
je pense que les jeux vidéo seraient un meilleur scénario pour l'apprentissage. Parce que dans un match, tu vois la balle, tu vois l'action, mais tu ne vois pas l'ensemble de l'œuvre. T'sais, tu peux le voir beaucoup si tu es au stade même. T'sais, là, dans un stade, tu vas être capable de dire OK, les joueurs sont bougés, telle chose. Mais je te dirais que les jeunes sont pas tellement. Sont pas tellement spectacles. On est surpris de voir comment que le nombre de parties de baseball regardées est assez minime pour nos athlètes. Donc, ils ont du fun à le jouer, mais ils n'ont pas nécessairement du fun à regarder ou beaucoup plus à le jouer au niveau vidéo. Donc là, je pense qu'au niveau des vidéos, écoute, je suis pas à jour, c'est sûr, là, au niveau des vidéos de baseball, mais je pense que l'action est assez bonne pour t'obliger à avoir une compréhension de tes déplacements, etc., là, qui serait beaucoup plus logique.
Oui, mais ça revient
à pratiquer, Jeff. Il faut faire des mises en situation, puis il faut frapper des balles au champ intérieur, il faut frapper des balles, il faut mettre toutes les coureurs au 2, coureurs au 3. Il faut faire des simulations. Puis pour tes coureurs aussi, c'est vraiment utile. Ouais. Donc, tu fais 5-6 balles frappées, après ça, changement, on siffle, puis tout le monde change de position, puis on recommence, puis t'as des nouveaux coureurs. Les équipes de 12, là, on met 4 coureurs, puis 8 joueurs en défensive. Donc, t'alternes la position qui n'est pas là, où il y a un coach qui peut toujours dépanner en défensive au pire. Puis on frappe la balle, puis on veut voir les vrais jeux se produire. Puis avec un coach ou un vrai coach au troisième but aussi, qui se ferme la boîte, puis qui analyse les bonnes décisions, puis qui arrête de crier pour rien, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus rentable. Et là, dans une partie, qu'une balle frappée au voltigeur de droite, puis le champ-centre lui crie 2-2-2, ben là, ça peut être utile, parce que le champ-centre va être pris d'informations. Mais c'est beaucoup plus... C'est vraiment la prise d'information qui est l'élément le plus important. Puis ça se fait dans le silence, pas dans le criage. Puis par la suite, quand une voix s'élève, là, elle tranche. Mais quand que tout le monde pourrait crier, à part de mettre du stress, là, c'est comme un gros ballon en chien intérieur, Jeff, t'entends « Facile, 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 t'es tout seul, Jeff! » Hey, c'est le fun, ça, t'es en train de shaker quelque chose de rare, là, tu dis « Facile, facile, tout le monde te crie facile, puis tandis que si quelqu'un à côté de toi était « OK, Jeff, t'es bien placé, t'es tout seul, il n'y a pas de problème. » Une voix calme comme ça, ça change complètement la donne pour capter le haut ballon.
Ouais, absolument. Le fait de regarder des matchs, c'est pas obligé d'être des matchs au complet, je pense que ça peut être une manche, tu sais, parce que j'ai quelqu'un dans les commentaires qui dit que tu sais, il va dire, je pense que c'est à ses joueurs là, le titre est plus basse, mais une fois par semaine, dire à ses joueurs regardez au moins une manche par semaine. Ça te fait des fois il y a des situations qui arrivent que tu peux pas simuler, que tu sais, j'ai l'exemple de Javier Baez que vers sa course vers le premier but, il l'a arrêté puis il est revenu vers le marbre, finalement il y a un coureur qui est venu marquer.
Ah oui.
C'est arrivé l'année dernière, si je ne me trompe pas. Il y a plein de situations. Moi, je me rappelle au début, Bryce Harper, quand il est arrivé dans la Ligue, c'était une jeune recrue, puis il courait sans arrêt. Il volait le deuxième but, il allait au deuxième but sur un but sur balle. Il y a plein de situations comme ça qui arrivent. T'es comme, ah, ça sort de où, ça? T'sais, fait que ça te fait penser à des choses. Je pense que tu peux analyser après, sans regarder des matchs au complet à tous les jours.
Non, c'est ça. Puis écoute, puis ça reste toujours la prise d'information. J'ai souvenu de mes athlètes de Québec à un moment donné qui était en Floride, puis l'autre équipe jouait l'avant-champ rapproché. On avait quoi au troisième but? Puis on était en fin de match, donc si on faisait un point, on pouvait gagner. T'sais. Puis ils ont donné un but sur balle intentionnel. Correct. Mais tout le monde était l'avant-champ rapproché. Fait que lui, en joguant vers le premier but, après son but sur balle intentionnel, il a continué à jogger, il a jamais arrêté, il s'est rendu jusqu'au deuxième but. Puis évidemment, personne n'a regardé, il a passé derrière les joueurs d'avant-champ. Donc, à un moment donné, le catcheur a crié, là, l'autre l'aréco est back puzzle pour s'en aller vers le deuxième but. Là, puis la balle n'est pas lancée, fait que là, il n'a pas osé lancer puisqu'il y avait un coureur au 3 en plus. Fait qu'on s'est tenu loin d'un double jeu comme ça parce que notre joueur s'est rendu au deuxième but. Ben, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut dire. C'est pas quelque chose. Même comme coach au premier but, c'est bien gênant de dire « Go, go, go! » Là, tu viens de réveiller tout le monde.
Ouais.
C'est un genre de situation de compréhension de jeu que c'est la lecture qui va te donner ça. Mais si tu lis pas et tu mémorises tout, ben on n'avance pas, c'est sûr.
Absolument. Sylvain, un gros merci cette semaine. Super intéressant. Bonnes vacances.
Hey, ça sent le bronzé, Jeff.
Ouais, ça sent jusqu'ici.
Je le sens, oui, je le sens ici. <là.
rire> Un gros merci, Sylvain. Merci à tout le monde d'être là ce matin. Super cool de voir vos questions, vos commentaires. On se revoit la semaine prochaine avec Max Sock. Salut, Sylvain.
Bye-bye, Jeff. Bon week-end.
Membre de la famille H2O Web Media.